chapitre 4 et nous étions restés au verset 3, nous arrivons au verset 4. Alors lisons du verset 4 au verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit l'apôtre, comme une sorte de commandement. Mais l'on ne peut pas, dirons-nous, se réjouir à volonté. On ne peut pas, si l'on a sur l'âme un voile de tristesse, si même on ressent une puissante affliction, bien pire encore, si l'on ressent de l'amertume, de l'animosité, comment se réjouirait-on? On ne peut pas à volonté se réjouir. Aussi, n'est-ce pas à la nature humaine que cela est dit et demandé? Réjouissez-vous, ce n'est pas dit au vieil homme. Le vieil homme, il ne lui est pas demandé de se réjouir, car ce serait tout le contraire, précisément, de ce qu'il faut. Tout le contraire de la volonté de Dieu. Si nous faisions, nous amenions le vieil homme, la nature humaine, à se réjouir, c'est que, précisément, elle sortirait de sa mort avec Christ, elle sortirait de sa crucifixion, de ce poids qui a été mis sur elle afin qu'elle ne participe plus au gouvernement de la vie, elle ne peut pas participer au gouvernement de la vie nouvelle, alors par conséquent, si on lui demandait de se réjouir, autant dire, eh bien, c'est pas la peine d'être spirituel, soyez charnel, et prenez dans le mode charnel tout ce qui peut vous être agréable pour être joyeux. J'ai eu l'occasion une année ici de parler de la joie, de la vraie joie. Et je me suis aperçu que je n'avais, pour ainsi dire, pas été compris. Enfin, pas moi, mais l'écriture dont je m'étais servi. Je n'ai pas été compris, m'en suis aperçu après. Et cela m'a, moi-même, profondément attristé de voir que on n'avait pas compris cela. La joie n'est pas une joie charnelle. Jamais l'apôtre Paul ne conseillerait de se livrer et de rechercher une joie charnelle. Il s'agit donc bien là de quelque chose de spirituel. Et ce qui nous le montre bien dans le texte, c'est dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On en a fait un petit chœur, un petit chant, et je me rappelle que autrefois à Alger, dans une réunion de jeunesse, il y avait un jeune qui conduisait la réunion de jeunesse, j'arrive à ce moment-là dans la salle, et je leur entends dire, réjouissez-vous, ils chantaient ça, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Et j'attendais dans le Seigneur, ça n'est pas venu. Alors, je ne les ai pas félicités. Pas plus que le garçon qui conduisait cette réunion de jeunesse. Je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, ça? Vous ôtez précisément tout ce qui fait la valeur et la vérité de ce commandement. Si vous ôtez dans le Seigneur, ce commandement est à l'envers. Il commanderait une réjouissance charnelle. Réjouissez-vous toujours, toujours dans le Seigneur. même si vous avez des causes d'affliction, vous vous réjouissez. Ah, c'est peut-être là, justement, demander aux chrétiens d'être dans un état d'âme, un état spirituel, disons, tout à fait élevé, d'être vraiment dégagé des brumes de la chair et de la terre. Dans un monde où surgissent tant de sujets de tristesse, d'affliction et même de souffrance, il faut pourtant se réjouir constamment, constamment dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alors il faut avoir une pensée qui soit dans le Seigneur et non pas ailleurs. Se réjouir en sa personne, dans une étroite communion avec lui. C'est alors que l'on peut se réjouir, par exemple, comme l'apôtre Paul l'indique pour lui-même, des persécutions, des outrages, des calomnies, ou, étant dans la douleur, se réjouir, car le Seigneur nous retient dans sa communion, et nous retient d'autant mieux, d'autant plus fortement dans sa communion, qu'il sait que nous sommes éprouvés. Il le sait tout autant que nous, plus que nous, il mesure même l'intensité de cette épreuve, il la mesure, et il sait qu'il y a un point qu'il ne faut pas dépasser, mais de tout sens, c'est lui qui est là pour resserrer la communion et par conséquent nous permettre d'être vraiment dans la joie. Il nous retient dans sa communion et c'est alors la joie et la paix de Dieu qui sont les puissantes consolatrices des épreuves, des souffrances, des afflictions, des tristesses. Il y a d'ailleurs une tristesse selon Dieu qui est spirituelle, tout à fait spirituelle, une tristesse excellente. Et alors, ce qui fait la joie dans le Seigneur, dans le Seigneur, ce qui fait la joie, c'est précisément que, au sein de cette communion du Père et du Fils, alors là, le Seigneur fait apparaître en plein dans l'épreuve que nous traversons, en plein dans l'affliction qui nous meurtrit, il fait apparaître sa personne et il rend sensible à nos cœurs sa personne. Alors c'est la joie au travers des épreuves et de l'affliction, la joie des martyrs. Qui sont aux morts rayonnants. Comment ont-ils fait ces hommes? Ils n'étaient pas des surhommes. Ils sont morts rayonnants, comme Étienne, qui recevait des pierres et qui en est mort. Et cela devait fortement meurtrir son corps, d'autant plus que on mettait le supplicié contre un mur, n'est-ce pas, pour ne pas qu'il recule, qu'il s'affaisse, et on lui lançait les pierres. Eh bien, alors qu'il était lapidé, que la mort était en train de venir, il était là contemplant le Christ debout, à la droite du Père. Il s'est élevé, le Seigneur, pour cette grande circonstance par laquelle son fidèle disciple passait. C'était une gloire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est proche, nous dit ici l'apôtre. Dans l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 1er, au verset 3, au chapitre 22, au verset 10, il est écrit « Le temps est proche ». Mais Calvin pensait que « proche » signifiait que le Seigneur était tout près de ceux qui le servent. Alors, j'ai noté cet avis, cette pensée de Calvin, parce que, en effet, elle a de la vérité, le Seigneur est tout près de ceux qui le servent. Mais nous pouvons voir peut-être les choses de plus près. Le Seigneur est proche. Le royaume des cieux est proche. Il est venu vers vous. Vous vous êtes approché du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous lisons ces choses-là dans l'Écriture. En réalité, quel que soit encore le temps qui sépare l'Église de son enlèvement, le Seigneur est proche. Il était proche, on pouvait le dire avec vérité, dans les commencements de l'Église, alors qu'il y a, n'est-ce pas, 19 siècles passés. Le Seigneur est proche de tout membre qui vit en sa communion. Il est proche, car la réunion avec lui, proche veut bien quand même signaler le moment de la réunion avec le Seigneur, la réunion de l'Église avec le Seigneur, c'est-à-dire la réunion de tous les élus, ceux qui sont rachetés avec le Seigneur. Proche veut bien signaler cela. Ne lui ôtons pas ce sens, n'est-ce pas, qu'il porte. Mais la réunion avec lui est déjà en grande partie réalisée lorsque des membres de l'Église sont dans la communion avec le Seigneur. L'attente du jour de la réunion, je dis la réunion, c'est le mot que Paul emploie dans les Thessaloniciens, notre réunion avec le Seigneur, eh bien, l'attente de cette réunion n'est pas inquiétante ni pénible, et nous en avons comme déjà les arts, si vous voulez, nous en avons déjà une partie de cette réunion. Le Seigneur est proche, et par conséquent, pour tout homme spirituel, tout membre de l'Église qui vit dans la communion, comme vraiment il faut insister sur cette communion. J'y ai beaucoup insisté cette année, les autres années aussi, on en a parlé. J'y ai beaucoup insisté, parce que nous le voyons de plus en plus nous sondons l'Écriture, plus nous voyons que c'est là la chose principale, essentielle. Nous avons eu raison de restaurer le baptême dans le Saint-Esprit, donnant la plénitude du Saint-Esprit et essentiellement plénitude de puissance, la puissance pour agir. Et vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit intervenant donc pour faire d'un disciple un témoin du Seigneur Jésus. Mais quant au disciple lui-même, il lui faut essentiellement la communion, et je le dis, on ne met pas assez l'accent d'insistance sur cela. Il vous faut la communion. Vous avez été tous appelés à la communion de son Fils. Jean nous dit, venez avec nous, partageons la même joie, et entrons, soyons dans la communion au Père et au Fils. Parce que là, c'est être dans l'Église, cela. Alors, chers amis, attention de ne pas être en dehors de cette communion, ou de ne pas n'avoir peut-être qu'une communion, c'est-à-dire une relation avec le Seigneur, bien peu sensible, bien relâchée, n'est-ce pas, qui soit relâchée, par exemple, n'est-ce pas, qui pose elle-même un problème. N'est-ce pas? Il faut que ce soit une réalité, non pas un problème, mais une réalité, cette communion avec le Seigneur. Et c'est cela que veut nous dire, tout cela est infiniment spirituel. Et quand nous discutons de l'Écriture, comme je l'ai entendu souvent faire, et cela me meurtrit, enfin, le Seigneur est proche, ah, ben pourtant il y avait pas mal de temps encore à attendre, alors il est proche, qu'est-ce que ça veut dire? Il va venir bientôt, etc. On ne voit que le temps On raisonne comme un homme de la terre, tout simplement. Le Seigneur est proche, mais sois dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et Paul vient de nous dire cela. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Si tu te réjouis dans le Seigneur, si tu es en lui, si tu es dans cette magnifique relation qui se nomme communion, le Seigneur est en toi. Toi, tu es dans le Seigneur. Le Seigneur est en toi. Alors, tu le sens proche. Il est proche. Voilà, n'est-ce pas? Pour toi, la venue du Seigneur n'est pas un problème du tout, c'est presque déjà comme s'il était venu te prendre, car il t'a pris déjà, il t'a déjà saisi. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est tout cela a un sens spirituel, et ce n'est pas donné en pâture à la discussion, et au raisonnement, et aux questions. Le Seigneur est proche. Et nous arrivons au sujet des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est absolu. Et on peut vérifier la traduction seconde. Elle est exacte. Il n'y a pas de problème, d'ailleurs, de traduction ici, n'est-ce pas? C'est clair. Le grec se traduit aisément. Ne vous inquiétez de rien, absolument de rien. Rien, rien, rien. Y a-t-il encore quelque chose pour l'inquiétude? Non, il n'y a plus rien, rien, rien. Rien, aucune place pour l'inquiétude. Alors on dira, bah oui, mais c'est bien facile, peut-être à dire, mais moins facile à accomplir, parce que nous sommes assaillis de tous les côtés par des sujets d'inquiétude, et ça, on ne les désire pas, mais ils viennent tout seuls. Il faut bien dire, n'est-ce pas, qu'il y a de fausses inquiétudes, qu'il y a des tracas absolument inutiles dont nous devrions d'abord être totalement délivrés, ces tracas inutiles. Alors on s'inquiète parce qu'on est trop attaché souvent à bien des bricoles, bien des choses, n'est-ce pas, sans valeur, sans aucune valeur, et qui nous détournent de notre position, de notre marche spirituelle. Des tracas inutiles, intérieurs, on dit que, quelquefois, qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai le caractère ainsi fait, n'est-ce pas, j'ai un tempérament inquiet, on dit, j'ai un tempérament inquiet. Eh bien, ton tempérament, crucifie-le, que veux-tu que je te dise? N'est-ce pas? Il est de trop, ce tempérament inquiet. Crucifie-le, comment veux-tu être vraiment chrétien avec ce tempérament inquiet si tu le gardes? Crucifie-le, et quand une inquiétude vient t'assaillir, refuse-la au nom de Jésus. Et puis dis, les choses iront bien, Seigneur, permets que tout aille bien, permets que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Et puis tout ira bien, tout ira bien. On peut s'inquiéter aussi d'une façon valable, pourrait-on dire, pour des choses qui vraiment motivent normalement l'inquiétude, des choses qui, dans la vie, si vous voulez, des autres hommes, seraient de sérieux sujets d'inquiétude. Il y en a de sérieux sujets d'inquiétude. Le cas de notre sœur, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, il faut dire, n'est-ce pas, que même pour ces sujets d'inquiétude, nous n'avons pas à garder l'inquiétude, parce que souvent, n'est-ce pas, nous voyons la chose qui est blessante, qui est mauvaise, nous inquiète parce que c'est une chose qui éprouve, c'est quelque chose qui peut-être annonce un malheur plus grand, n'est-ce pas? Alors on s'inquiète de ça, on regarde cela. Eh bien, si nous avons confiance dans le Seigneur, la chose trouvera solution plus tard. Le Seigneur voit la solution. Eh bien, nous, que nous la voyons aussi, cette solution, dans la confiance dans le Seigneur. On s'inquiète parce qu'on a surchargé aussi, souvent, sa vie de trop d'occupations ou de préoccupations, de trop d'activités. On a surchargé sa vie. Alors, le diable, il en profite, n'est-ce pas? Voyez-vous, alors il met des sujets d'inquiétude partout, Si on a beaucoup d'activités, beaucoup d'affaires, alors on est en relation avec beaucoup de gens qui doivent travailler avec vous, pour vous peut-être, sous vos ordres peut-être, n'est-ce pas? Et alors, ça va pas d'un côté, ça va pas de l'autre, etc. L'argent ne vient pas, telle chose n'arrive pas en son temps, etc., etc. Et pourquoi avez-vous toutes ces activités? Pourquoi tout ça? Un chrétien doit-il avoir tant d'activités que cela? En a-t-il besoin? Ça, je suis persuadé, mes amis, que le grand développement des activités est une erreur majeure. Et je peux le dire parce que j'ai connu bien des chrétiens qui, devenus foncièrement chrétiens, disciples du Seigneur, se sont débarrassés des activités qui, dans lesquelles ils étaient toujours sur la brèche. Ben, ils s'en sont débarrassés et ils ont gardé l'activité juste suffisante pour eux, pour vivre eux et leur famille, et ils se sont débarrassés de tout ça. Ça est la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si nous-mêmes, de notre côté, nous développons les sujets d'inquiétude par manque de sagesse, ne nous plaignons pas, alors évidemment, à ce moment-là, n'est-ce pas, le texte n'est plus tout à fait pour nous. Et en tout cas, ce que le Seigneur nous dit ici par ce texte, en toute chose, quelles que soient les choses qui pourraient motiver ces inquiétudes, eh bien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire, voyez-vous les actions de grâce, elles montrent, nous en avons parlé, n'est-ce pas, nous en avons parlé des actions de grâce qui, en somme, ponctuent la prière de demande, parce que, n'est-ce pas, si nous élevons des actions de grâce, nous disons, la chose que nous demandons, nous l'avons déjà reçue. Nous l'avons reçue. Merci Seigneur, nous l'avons reçue. Nous savons, Seigneur, que tu as pris la chose en main. Nous savons que tu as apporté la solution qui nous était nécessaire. Et alors, faire connaître vos besoins à Dieu en toute chose, c'est en somme les avouer à Dieu. Bien Seigneur, voilà, on est dans l'inquiétude pour ceci, cela. Il y a des inquiétudes qui viennent un peu nous tenailler, n'est-ce pas, nous tracasser. Seigneur, les voilà ces inquiétudes. Alors, nous allons te les faire connaître. En te les faisant connaître, en te les disant, nous te les donnons. Nous te donnons nos soucis, Seigneur. Et le Seigneur le veut, ça. Nous te les donnons, nous avouons nos inquiétudes. Et quand on les a avouées, on est déjà déchargé. On en est déjà déchargé. Quand on les a avoués à Dieu, on les a dit à Dieu, on en est déchargé. Si on l'a fait avec grande foi, alors c'est fini, on les a plus. On les a plus. Et les choses devront s'arranger, les choses s'arrangeront non pas par hasard, mais elles s'arrangeront parce que le Seigneur les a prises en main. Et la paix de Dieu, nous dit l'apôtre, la paix de Dieu, c'est une belle péroraison, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les inquiétudes étant disparues, la paix peut remplir notre cœur. Ce sont les inquiétudes qui font la guerre à la paix intérieure. Alors, si les inquiétudes disparaissent, la paix revient, et c'est alors que les pensées peuvent librement demeurer en Jésus-Christ. Sans ça, n'est-ce pas, sous le coup des inquiétudes, que font nos pensées? Elles vont vers les sujets d'inquiétude, vers les choses qui inquiètent, elles y vont, puis elles quittent Jésus-Christ. Nos pensées quittent Jésus-Christ. On laisse Jésus-Christ, n'est-ce pas? On dit, Seigneur, j'ai affaire au dehors, je suis très préoccupé, Seigneur, reste là, attends-moi, je m'en vais, je sors, n'est-ce pas? C'est comme si vous lui disiez ça, la même chose, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors, si au contraire, ces inquiétudes sont annulées, alors la paix revient, n'est-ce pas? Et vos pensées reviennent en Jésus-Christ, là où elles doivent être toujours. La raison humaine ne peut concevoir de paix, de calme et même de joie en un homme qui souffre ou qui a de graves sujets d'inquiétude. Et pourtant, l'Écriture nous assure de la part de Dieu que cela est donné à celui qui met cette parole, notamment en pratique avec foi. Celui qui met la parole de Dieu en pratique avec foi, il a des soucis, des inquiétudes, il les répand devant Dieu, Il est homme, Dieu sait qu'il est faible et que les inquiétudes, bien sûr, sur une nature faible comme la nôtre ont une certaine portée, on les répand devant Dieu, et puis, c'est fini, la paix est là. Il faut toujours rechercher le retour de notre cœur, de nos pensées à la paix parfaite, à la paix parfaite. C'est-à-dire la paix majeure, la paix du Seigneur. Je vous donne ma paix, la mienne, a dit le Seigneur. Au reste, frère, lisons-nous verset 8, au reste, frère, ce qui indique que là, l'apôtre Paul va faire une sorte de synthèse, un résumé, si vous voulez, ah, une sorte de synthèse. Et il va nous dire une méthode sûre qui constitue la bonne ligne de conduite du chrétien. Eh bien, essayons de l'esquisser, essayons de voir, n'est-ce pas, ce que sera cette bonne ligne de conduite du chrétien. Beaucoup de choses sont dites, n'est-ce pas, il est de temps en temps nécessaire de faire une certaine synthèse. Et il va nous dire tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, selon l'Évangile, tout ce qui découle d'une franche application de la parole de Dieu. Attention, tout ce qui est vrai, pas dans l'énonciation seulement. Nous faisons souvent de la parole de Dieu une simple énonciation, non pas. Il faut chasser cette pensée-là de nous. Il faut implanter même une autre pensée. Et la parole de Dieu est vraie quand elle est connue, reçue et mise en pratique. Voilà le vrai. S'il manque une de ces trois choses, eh bien, la parole de Dieu, ne l'invoquons pas. N'invoquons pas la parole de Dieu comme une théorie, comme une simple énonciation. N'invoquons pas la parole de Dieu si nous ne l'avons pas comprise, acceptée du fond de notre cœur avec amour et foi, bien sûr. Et puis, n'invoquons pas la parole de Dieu si nous ne la mettons pas en pratique. Et si nous nous y refusons, n'invoquons pas la parole de Dieu. Ce serait faux. La vérité, c'est quand la parole de Dieu énoncée a été reçue, n'est-ce pas? Elle a été, le cœur l'a acceptée parce qu'elle est faite pour le cœur. Elle est faite pour lui. Parle au cœur de ce peuple, disait le Seigneur à son prophète. Parle au cœur de ce peuple. Et quand cette parole, alors, est entrée dans la pratique, là, il y a la vérité. Et Jean disait, je me réjouis de voir que tu marches dans la vérité. Il marchait dans la vérité parce qu'il vivait la vie nouvelle, mettant en pratique la parole de Dieu qu'il avait reçue, qu'il aimait, et dont il ne perdait rien. Voilà la vérité. La vérité demande donc une mise en pratique de la parole de Dieu, sans quoi elle n'est pas. Alors, tout ce qui est vrai, de cette manière, tout ce qui est honorable, c'est-à-dire tout ce qui est digne, tout ce qui peut être vu et qui constitue le témoignage, le vrai, tout ce qui est un bon témoignage, si vous voulez, tout ce qui est de bon témoignage, honorable. Bon, ensuite, il nous dit tout ce qui est juste, tout ce qui est juste. Juste, c'est ce qui est selon la volonté de Dieu. Hein, selon la volonté de Dieu, et qui introduit par conséquent l'équité, la justice, l'équité. Le Seigneur dit à Jean-Baptiste, laisse, il faut maintenant que nous fassions ce qui est juste, ce qui est de la volonté du Père, et ce qui sera l'équité. Ça. Alors, tout cela, et il y a encore quelque chose, il y a encore plusieurs termes, tout ce qui est pur, c'est-à-dire exempt de mélange. Pur veut toujours dire dans la Bible exempt de mélange. Hein? Transparent, exempt de mélange. Tout ce qui est aimable, non pas aimable comme des personnes qui savent l'être, qui s'ingénient à l'être et qui sont sympathiques. Non, tout ce qui est aimable, c'est-à-dire qui attire. Comme par exemple, l'humilité est une chose aimable. C'est-à-dire qui doit être aimé, la simplicité doit être aimée, l'esprit de charité doit être aimé. Voilà des choses aimables. pas? Voilà ce que veut dire le Seigneur. Je le répète, tout est spirituel là, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de conceptions humaines. Tout ce qui est vertueux, c'est-à-dire empreint de force divine, ça, c'est la force et l'énergie de l'âme. Tout ce qui est empreint de cette force divine et de cette énergie de l'âme. Tout ce qui est digne de louange, c'est tout simplement le bien. Le bien, lorsque il est pratiqué, il est fait, qu'il surmonte le mal, ça c'est digne de louange. Eh bien, tout cela, tout ce qui doit nourrir les pensées du cœur, tout ce qui doit contribuer à former les intentions du chrétien, les intentions d'un homme spirituel, ses aspirations, voilà. Rien, par conséquent, d'égoïste là-dedans, rien de personnel, rien qui soit venu de l'indifférence ou du mépris, rien non plus qui soit conçu ou fait par forfanterie, n'est-ce pas? Rien. Et ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Voilà. Ah, mes amis. Oh, oh, oh. Je me dis, nous avons du travail. Chacun pour soi a du travail à faire. On devrait, n'est-ce pas, presque à chaque instant, réviser sa conduite et tiens, ce que je viens de faire là, est-ce que ça correspond à tous ces critères là? C'était pas très honorable ce que je viens de faire. C'était pas très aimable, parce que ça ne se ressentait pas de l'humilité, de la simplicité. Enfin, ce que j'ai fait, est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Nous avons du pain sur la planche, du travail, rien que ce verset, chers amis. Revenez-y de temps en temps et voyez si votre conduite répond à ces critères-là. C'est une très belle analyse, une très belle synthèse, un très beau résumé. Ah, des choses à mettre de côté, n'est-ce pas? Et puis, il faut se juger soi-même, sans quoi nous risquerions un jour d'être jugés, nous dit l'Écriture. Jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez point jugés. Alors il faut se juger soi-même, un chrétien doit apprendre cela, s'éprouver lui-même, s'examiner lui-même, se juger lui-même. Et nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Voyez-vous, l'Écriture nous dit tout ça pour que nous puissions, nous ayons en main, n'est-ce pas, de quoi nous juger. Et alors vous voyez comme il faut que nous relisions sans cesse l'Écriture. Parce que ça, n'est-ce pas, vous dites, oui, je l'ai vu, ça je le connais. Donc, alors, il faut y revenir, ça, de temps en temps. Il faut s'en servir, il faut se servir de cette parole. Mon cœur, est-ce que tu t'es conduit comme ça, tout le temps, hier, aujourd'hui, t'es-tu conduit comme ça? Voyons voir un petit peu. Seigneur, rappelle-moi ce qui n'a plus, ce Seigneur va vous rappeler. Tiens, tout à l'heure, tu as rencontré telle personne. Tiens, tout à l'heure, tu as fait telle démarche. Alors, regarde. Oh, oui, c'était pas vrai, c'était pas honorable, c'était pas juste, c'était pas aimable. Vous voyez comme nous avons affaire. Mes amis, il faut le faire. Et quand on nous dit, vous n'avez rien à faire, ça m'est resté sur le cœur, cette prédication, je vous l'assure. Je suis pas prêt de pouvoir vraiment la digérer, celle-là, n'est-ce pas? J'ai entendu ça une fois, oui. Vous n'avez rien à faire, chrétien, rien à faire. Moi je dis, vous avez affaire, vous avez affaire par la foi, il vous faut la foi, il vous faut l'amour du Seigneur, mais vous avez du pain sur la planche, n'est-ce pas? À vous examiner déjà, n'est-ce pas? Voyez ce que vous avez à faire, et cela vous fera grandir. Si vous dites, je n'ai rien à faire, eh bien, vous ne croîtrez jamais, vous resterez un enfant, et vous risquez ce qui se voit, hélas, de redevenir un chrétien charnel. Car malheureusement, l'association de ces deux mots a un sens, un chrétien charnel. Quelqu'un, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, ça personne ne peut le dire, bien sûr, n'est-ce pas, qu'il n'est plus sauvé, qu'il n'est plus... Mais s'il continue, souvent, tel qu'il est, s'il persiste à vivre comme il vit, avec tous ses défauts qui réapparaissent, avec toutes les aspérités de son caractère, n'est-ce pas, en ne faisant rien qui soit vraiment honorable, rien qui soit vrai, rien qui soit juste, rien qui soit digne de louange, Hein? Eh bien alors, qu'est-ce que vous voulez, s'il continue comme ça, vous croyez qu'il va avoir de l'assurance quand le Seigneur apparaîtra? Ne va-t-il pas être confus et éloigné de lui? Je vous laisse à penser. Nous avons ensuite ceci au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » L'apôtre nous a dit, n'est-ce pas déjà, qu'il incitait les chrétiens à être ses imitateurs, et je l'ai dit, nous le pouvons aussi, parce que nous connaissons beaucoup de choses de Paul. Et le Seigneur, l'Esprit l'a voulu ainsi, nous connaissons beaucoup de choses. Hein? Ce serait plus difficile, par exemple, d'imiter Pierre, parce que on sait ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans les commencements de l'Église, comment il s'est servi des clés du royaume, hein, pour ouvrir les portes. Mais ensuite, on ne sait plus trop ce qu'il a fait. Il nous a donné de bonnes épîtres. Tandis que Paul, n'est-ce pas, le Seigneur a voulu que sa vie chrétienne, son ministère, s'étale là, n'est-ce pas, dans beaucoup de pages, que nous en ayons connaissance, et nous pouvons en effet imiter l'apôtre Paul, nous aussi, bien que nous ne l'ayons pas connu. Pratiquez-le. Vous voyez comme l'apôtre désire la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous arrivons au verset 10 et nous terminerons cet épître ce matin. Il y a moins de choses à dire, je pense, dans cette fin d'épître. Alors, chapitre 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien. » Mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ce sont là surtout les salutations et les remerciements de l'apôtre Paul pour les subsides que les Philippiens lui avaient envoyés tout à fait spontanément. Il n'avait rien demandé, mais il lui avait envoyé spontanément des subsides à plusieurs reprises. Et il y a dans ces remerciements, vous pourriez lire et relire cela, il y a dans ces remerciements une simplicité chrétienne, une absence totale d'emphase et de supériorité. Pourrait tout de même être supérieur. Il exerce une autorité qui est très haute, l'autorité de Jésus-Christ. Il exerce l'autorité de Jésus-Christ et il doit l'exercer. Il le rappelle, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mais non, quand il adresse ses remerciements, c'est l'homme humble. Pas d'emphase du tout, pas de supériorité, une grande simplicité. Et cela est la marque de la véritable humilité. Vraiment, cet apôtre est bien un modèle. Il y a quelquefois Chez ceux qui reçoivent des subsides ou des dons ou des, disons, des présents, n'est-ce pas? Des présents, on parle souvent de cadeaux et j'ai fini par ne plus aimer ce mot-là. Parce que quand on parle, on dit que le Seigneur vous a fait un cadeau au lieu de dire un don, moi ça me reste sur l'estomac, ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, moi, j'aime pas ça. Un cadeau. Mais non, c'est pas un cadeau. Il nous a fait des dons spirituels. C'est pas la même chose qu'un cadeau, ça. Moi, je n'aime pas l'idée de cadeau. Mais l'idée de don, oui. L'idée de charisme, charisma, charismata, ça ne veut jamais dire un cadeau. Et il y a des choses dans le langage qui choquent, si vous voulez. Moi, ça me choque. Alors, des dons, n'est-ce pas? Eh bien, il y a, là, ici, il s'agit de dons faits par une église. Et on peut dire que certains qui sont susceptibles de recevoir des dons faits par une église, font preuve de délicatesse, ou alors n'en veulent pas. Mais attention, la délicatesse qui ne veut rien recevoir peut renfermer quelquefois de l'orgueil. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a reçu. Il a reçu, il en avait besoin. Il a même été comblé. Il s'est laissé combler. Il en avait besoin, il s'est laissé combler. Pourquoi aurait-il repoussé, refusé, n'est-ce pas? S'il avait ce qu'on appelle humainement la délicatesse. Attention, que quoi la délicatesse? La délicatesse, c'est un raffinement de l'orgueil, quelquefois, n'est-ce pas? Attention, moi je vous dis pas ça pour susciter les dons, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de vos dons. Mais, n'est-ce pas? Je le dis, n'est-ce pas? Parce que si des dons sont faits par la foi, toutefois sachez les diriger vos dons. Ne les envoyez pas à droite, à gauche, là, à tout le monde. Celui qui vient planter sa tente quelque part, n'est-ce pas, et qui met beaucoup de haut-parleurs et des haut-parleurs très puissants à la porte, n'est-ce pas, n'allez pas justement lui donner vos dons. Mais, n'est-ce pas, lorsque l'Église donne des dons bien dirigés, là c'était très bien, c'était le serviteur de Dieu, c'était un grand serviteur de Dieu, il fallait le soutenir dans toute son activité, et c'était parfait, c'était très bien, il n'y avait pas à faire preuve de cette délicatesse humaine qui, quelquefois, je vous dis, a une pointe d'orgueil. Cependant, lui, l'apôtre, est élevé au-dessus de toute recherche de dons ou d'avantages en nature, d'avantages terrestres. Il est élevé. Il les reçoit. Mais ce n'est pas un homme avide de ces choses. Il n'a aucune avidité, aucune recherche, bien entendu. Et tout cela est magnifiquement dosé, exprimé. On est à l'aise par un texte comme celui-là. On est à l'aise. Et je suis persuadé même que des inconvertis lisant ça ne seraient pas choqués. Les inconvertis sont souvent choqués par les quêtes. Ils n'aiment pas ça, les quêtes. Les quêtes et les appels d'argent, les appels. On n'en a jamais fait ici d'appel d'argent. En somme, l'apôtre Paul a connu des situations très inégales. Il a été tantôt comblé dans l'abondance, tantôt privé, tantôt dans la disette, ayant faim même, il le dit, ayant faim. Mais il s'est joyeusement accommodé de toute situation. Voilà encore une indication qui nous est nécessaire. Il s'est accommodé de toute situation. C'est ce qu'il faut faire si on est un témoin de Jésus-Christ, savoir s'accommoder de toute situation. Alors, et l'apôtre a appris, lui, à vivre par la foi vraiment et dans la seule vision de son ministère. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Ah, ça c'est beau aussi, c'est une belle assurance. Le Seigneur veut que ses disciples sachent se contenter de toute situation. Il veut que les récriminations ou les plaintes soient inconnues, que on ne puisse pas en entendre au milieu des chrétiens. Voyez par exemple, n'est-ce pas, ces Israélites dans le désert qui récriminaient, puis alors ils pensaient aux pots de viande, les os, l'ail, n'est-ce pas, ils aimaient beaucoup l'ail, faut croire. Alors ils pensaient à tout ça qu'ils avaient en Égypte, ils avaient ça à satiété en abondance, puis alors là ils n'avaient plus que la manne. Et la manne c'était bon pourtant, ça les nourrissait. nourrissait très bien, et c'était une nourriture de santé. Une nourriture on ne peut plus rationnelle. Ben, ça leur suffisait pas, alors ils récriminaient. Mais c'est affreux! Mais c'est affreux! Ils ont été punis pour cela! Ils ont été punis. Avons-nous, nous-mêmes, la volonté d'apprendre à être toujours satisfait, à être toujours joyeux? Vous savez, il ne faudrait pas, réfléchissez à ça, que le petit confort, moelleux, il est toujours moelleux quand on est chez soi, n'est-ce pas, le petit confort moelleux de ses habitudes, de son petit chez soi, il ne faudrait pas que cela nous tienne prisonniers. Il ne faudrait pas que ça nous tienne prisonniers. On peut avoir un petit chez soi qui ne soit pas d'un grand confort, mais on y tient, on y est bien, on a ses aises, comme on dit, n'est-ce pas, on a tout à fait ses aises. Puis si on sort de ça, on n'est plus bien, n'est-ce pas, il nous manque quelque chose, et on ne sait pas supporter cela. Alors on est prisonnier de son petit confort moelleux, on est prisonnier de ses habitudes, et si on nous enlevait même ses faibles biens, si on nous les enlevait, il y a des gens sur la terre à qui on les a enlevés, allez voir en Russie et ailleurs, enfin il y a des gens à qui on les a enlevés, et puis l'Écriture nous dit, n'est-ce pas, qu'on doit pouvoir supporter l'enlèvement de ses biens, il y a des chrétiens, de vrais chrétiens qui ont supporté ça, très bien. Ah, eh bien, c'est parfait, moi j'ai perdu une maison en Algérie. J'ai perdu une maison, villa, l'avais fait construire, et puis ma femme et moi, je vous assure, ça ne nous a rien fait du tout. Nous n'avons, merci Seigneur, qui a permis cela, nous n'avons pas eu dans le cœur le moindre regret du tout. C'est comme ça, les circonstances ont été comme ça, la maison elle est restée. Hein, on n'a pas emporté, et puis ben, ça va bien, ça n'a pas d'importance. Comme dit l'apôtre ici, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est-à-dire textuellement, je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous revenir. Je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous revenir. Il s'agit d'un fruit spirituel, bien sûr, n'est-ce pas ? Que les Philippiens recueilleraient certainement de leurs dons et de leur amour fraternel pour le serviteur de Dieu qu'est l'apôtre Paul. Oui, ils ont aidé selon une louable intention, selon la force de leur amour fraternel pour l'apôtre Paul, ils ont cédé à cet amour fraternel, ils l'ont aidé, et l'apôtre Paul dit, moi ce que je veux maintenant, c'est que ce que vous avez fait pour moi vous procure un fruit spirituel, et cela ne manquera pas. Vous savez ce que dit, ce qu'a dit le Seigneur Jésus. C'est peut-être l'occasion de le relire dans Matthieu 10, c'est verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas qu'il y a toujours, le Seigneur a prévu là des récompenses. Et là, l'apôtre Paul en parle, en somme, sous l'idée du fruit spirituel. Enfin, ce que l'apôtre Paul a reçu des Philippiens, il le regarde comme un don fait à Dieu. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Et c'est personnellement ce que j'ai fait quand j'ai eu l'occasion de faire des remplacements d'église et qu'on a voulu me faire quelques dons en nature, par exemple, n'est-ce pas? On m'a donné par exemple un jour à Villeneuve un fauteuil de bureau. D'ailleurs je ne l'ai plus, il est chez un pasteur maintenant, et un pasteur qu'on avait besoin, je lui ai passé le fauteuil de bureau. Mais enfin, n'est-ce pas, c'est un don, vous voyez, qui sert le Seigneur. Hein? Eh bien, j'ai considéré ces choses comme faites à Dieu, faites à Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu vois, il te donne cela. parce que c'est sa parole qui a suscité en eux ce désir fraternel de faire cela. Il te donne cela, et c'est moi qui en profite. Et nous arrivons aux salutations, ce n'est pas la peine de nous y arrêter particulièrement, sauf au verset 22. Au verset 22, il est dit « Tous les saints vous saluent ». Et l'apôtre Paul était à Rome, ne l'oubliez pas. Et principalement ceux de la maison de César. La maison de César, vous ne savez pas qui était ce César? On appelait César l'empereur de Rome. Et vous savez pas qui était ce César à l'époque où Rome, nous avons dit dans les 60, l'an 60 à 63, mettons, qui était ce César? C'était l'abominable Néron. Il y avait donc des saints dans la cour même de l'empereur Néron. Ainsi, l'évangile avait pénétré dans cette cour impériale, c'est-à-dire dans un abîme de crimes et de vices. Telle était, n'est-ce pas, la cour de Néron, un abîme. Et quelques personnes avaient reçu grâce et consécration pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ils étaient devenus des saints de l'Église, là au milieu de, dans cet affreux milieu, n'est-ce pas? Alors oui, que l'Évangile peut entrer partout. Peut y avoir des cœurs qui reçoivent l'Évangile, la puissance de l'Évangile est grande, et que nous le sachions et que nous nous en réjouissions. Amen. Amen.